возвращайся. Туманы низко опускались, как всегда на старой лавочке играла я на балалайке.
Ох, балалайка, балалайка, твои струны золотые. Ох, балалайка, балалайка, ох, помоги.
Autre radio, autre culture, bonjour, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous recevons Bielka. Bonjour Bielka.
Bonjour.
Qui est une chanteuse russe, mais vivant en France, étant née en France.
Oui.
Alors d'où viennent ses origines?
C'est ma mère qui est d'origine russe et qui m'a transmis cette tradition du chant. Depuis toute petite, je chante avec elle, elle chantait très très bien et voilà. C'est-à-dire que le fait que je sois née en France ne m'a pas éloignée de cette tradition. Au contraire, elle m'y a peut-être même ajouté le brin de nostalgie qui donne une dimension supplémentaire.
Alors pour parler de Bielka, nous avons également la participation de Constantin Kazanski que nous avions déjà entendu ici sur ces ondes. Bonjour Constantin.
Bonjour.
Bielka, quand on est toute petite, est-ce qu'on a idée un jour qu'on va devenir chanteuse et transmettre cette tradition russe?
En tout cas, moi, j'ai toujours chanté. Depuis toute petite, je me souviens que même dans la cour de l'école, je sollicitais mes petites copines de classe pour venir chanter avec moi à la récré, dans un coin de cour. C'est une passion qui m'a prise vraiment toute petite. Mais de là à avoir l'idée de devenir chanteuse, non. J'ai d'ailleurs absolument rien fait de ce qu'il faut pour faire carrière, comme on l'entend actuellement.
Tout est empirique finalement dans le savoir
tout
musical.
Tout à fait, oui.
Ça marche bien puisque vous avez chanté dans des restaurants russes, dont le Balalaïka. Alors racontez-nous cette histoire, cette aventure.
Oui, la Balalaïka, c'est un endroit un petit peu mythique pour la musique russe parce que c'était en fait ce lieu qui a été créé par Marc de Loutchek où on chantait vraiment la musique populaire russe qu'il adorait et où on chantait vraiment ce qu'on voulait. C'est-à-dire que ça a été un peu une rupture par rapport aux anciens cabarets comme Scheherazade, etc., qui avaient une autre tradition plus ancienne. La Balalaïka a été vraiment le renouveau dans l'histoire des cabarets russes.
Je m'étonne toujours de voir les gens qui vont dans des cabarets comme ça, des cabarets russes. À votre avis, qu'est-ce qu'ils cherchent en allant écouter ces musiques russes?
Ça, je ne sais pas, c'est à eux peut-être qu'il faut le demander, mais c'est une ambiance particulière. On emploie un peu ce terme générique de d'âme slave, mais je pense que oui, ça revêt quelque chose vraiment de chant qui prend aux tripes, qui est à la fois nostalgique et très très joyeux, qui peut être totalement effréné, débridé. On cherche un lâcher prise, quelque chose qui nous sortent de la réalité quotidienne. Je pense que c'est ce que les gens venaient chercher dans les cabarets russes. Bon, ceux d'avant que je n'ai guère connus, c'était aussi une sorte de faste et de romantisme. Et ensuite, pour ce qui a été moi, de mes passages dans le cabaret russe Balalaïka, c'était qui était plus, comment dire, plus une boîte à chansons un peu à la mode québécoise. C'était plus ça, donc c'était déjà une autre atmosphère, une autre ambiance. Mais c'est vrai que les gens venaient quasiment tous les soirs, les mêmes revenaient tous les soirs. C'était vraiment un engouement pour cette ambiance, quoi.
Comme boîte à chansons, ça sous-entend que vous chantiez des chansons russes du moment, à la mode, au moment où vous y étiez, ou vous aviez un répertoire spécialement traditionnel?
Non, moi j'étais plus, je représentais plus le répertoire vraiment traditionnel, puisque à l'époque c'était avant la fin du rideau de fer, donc j'étais un petit peu la seule voix russe entre guillemets, sur Paris. Et j'étais la seule chanteuse à Balalaika, mais on chantait, on avait chacun notre répertoire. Donc moi, c'est vrai que c'était plus le répertoire vraiment traditionnel de la campagne russe, mais il y avait aussi d'autres chanteurs qui chantaient les bardes, Andrei Shestapalov qui chantait aussi Vertinsky, etc. Enfin voilà, on avait un peu chacun son style.
Est-ce qu'il y a en Russie, tel qu'on se la représente, cette immense étendue de terre, est-ce qu'il y a des traditionnels dans chaque région, comme on a en France, entre le basque, le provençal, ou l'alsacien, ou le breton? Est-ce qu'on a ces mêmes différences dans
ces
pays-là?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, la Russie, c'est immense. Donc, effectivement, entre les champs du nord de la Russie et les champs du sud de la Russie, les traditions sont très, très, très différentes. Mais là, on rentre un peu dans le domaine de l'ethnomusicologie. Nous, enfin, en ce qui me concerne, moi, à l'époque, je transmettais d'une part ce que ma mère me chantait, et qui, pour la plupart, bon, il y avait des chants très anciens qu'elle avait elle-même reçus de ses parents, mais il y avait aussi surtout les premiers vinyles qu'on recevait d'Union soviétique. Donc c'était déjà, c'était une tradition un petit peu édulcorée, je dirais, par rapport au vrai chant traditionnel que j'ai découvert par la suite en allant moi-même faire du collectage de chants dans les villages russes.
Oui, parce que votre famille était originaire de quelle région ?
Ma mère était originaire du sud de la Russie, de Crimée, plutôt d'Ukraine d'ailleurs. Ukraine, Moldavie, voilà, c'était une famille méridionale.
Est-ce que ce sont des chants qui deviennent plus orientalisants ?
Oui, tout à fait, déjà. Mais ma mère avait aussi une culture russe. Vraiment russe, quoi. C'est-à-dire que, parce qu'elle est d'origine juive, et donc c'est pas la même culture non plus, mais elle chantait des chants russes qu'elle avait entendus d'ailleurs je ne sais où, je ne sais comment, mais si ce n'est donc ces 33 tours qui sont apparus dès mon enfance quand même.
Vous parliez tout à l'heure de Marc Deloutchek. Comment avez-vous rencontré cet homme qui nous a quittés il y a peu ?
Il y a peu, oui.
Il y a très très peu. Il avait fait une grande fête pour son anniversaire. Et finalement, peu de jours après, il est décédé. Comment vous vous êtes rencontré avec Marc ?
Moi, Marc, je l'ai rencontré la première fois. J'étais vraiment gamine, je devais avoir 13-14 ans, dans un cabaret qui s'appelait Chez Vodka, qui se trouvait dans le quartier latin, à la Grande Séverine, et où j'avais été vraiment subjuguée, parce que c'était tout ce que j'aimais de la musique russe, la balalaïka, les chants, enfin, c'était vraiment, pour moi, ça a été une grande découverte. Et puis, mais j'étais bien jeunette à l'époque, donc j'ai commencé à chanter, en fait, je ne sais plus, vers 17-18 ans, et puis là, c'est Marc qui m'a trouvée, dans un endroit où je chantais tout à fait par hasard, et qui du coup m'a demandé de venir chanter dans sa formation.
Donc il vous avait remarqué finalement.
Voilà.
Et quels souvenirs vous en avez de Marc comme homme ?
Une longue amitié quand même, parce que c'était un excellent musicien. Et puis voilà, on a eu vraiment une relation amicale pendant très 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 longtemps, pendant des années. Puisque jusqu'à la fin, quasiment... on s'est toujours vus, bon, pas toujours, par intermittence, etc. Mais on a eu toujours cette relation très, très profonde, très, très amicale.
Est-ce que vous avez fait un travail particulier, je veux dire, de création entre Marc et vous ?
La création, c'était plutôt sur le tas, je dirais. C'est-à-dire que moi, je venais avec les chansons qui me plaisaient. Et puis, puis d'emblée, il les accompagnait à merveille. Et de temps en temps, il me donnait un conseil, mais très rarement. D'ailleurs, le plus grand conseil que j'ai eu de sa part, c'était surtout ne prends pas de cours de chant. À un moment où, justement, moi, je me disais, bon, il faudrait peut-être quand même que j'en prenne. Et puis, lui m'a dit non, non, surtout pas. Et voilà, j'en ai quand même pris quelques-uns après, sans lui dire.
Constantin, est-ce que tu as quelque chose à dire ?
Oh bah beaucoup de choses, mais enfin oui. Bon. Déjà,
au niveau de la vie, après on va parler du domaine de la chanson,
oui,
particulièrement.
Mais je voulais dire quelque chose pour Marc.
Oui.
Bon, Marc Deloutchek, c'était vraiment la personne la plus charismatique de sa génération. dans le monde russe ou dans le microcosme russe, c'était un don du ciel pour tous les musiciens qui voulaient s'exprimer dans ce genre de musique, parce que c'était une personne qui émanait quelque chose sans rien faire, sans parler. Et même quand il jouait trois notes, et ces trois notes étaient déjà suffisantes à une époque où tout le monde voulait devenir technicien. Et déjà l'affinité que j'ai eue pour Marc, c'était que moi non plus, je ne me suis pas intéressé au côté technique, je m'intéressais plutôt aux trois notes d'une autre manière. Et ce qui est merveilleux encore, c'est d'entendre que jusqu'à aujourd'hui, les gens qui essayent de jouer comme Marc, ils font toujours les mêmes simples mélodies à la guitare avec trois notes et demie, avec quelques harmoniques, et ça passe encore. Alors ça, c'est pour ça que j'appelle que c'était un don du ciel pour la génération de musiciens russes, puisque c'était d'une part quelqu'un qui avait montré ça, que ça peut exister, et d'autre part c'était quelqu'un qui réunissait autour de lui du monde, c'est quelqu'un qui a eu la possibilité, l'opportunité aussi de réaliser des choses. Bielka parlait de chez Vodka, qui était un établissement fabuleux que je n'ai pas connu parce que je n'étais pas encore à Paris. Après, il a travaillé pour Ivan Rebrov. Après, il a créé la Balalaïka, qui, à mon avis, n'était ni restaurant ni cabaret. C'était surtout un club de chant. C'était un club de chant, et ce qui était merveilleux dans la toute première Balalaïka en 79, si je ne me trompe pas, c'était que quand vous entriez dedans, si l'ensemble se produisait, personne ne s'occupait de vous. Vous deviez attendre que le chant se termine avant que quelqu'un vienne vous prendre le manteau ou s'occuper pour que vous devez vous asseoir et tout ça. Et ça, c'était merveilleux. Et ça, Marc l'a fait et personne ne l'a fait après lui. Et d'ailleurs, lui-même n'a pas pu le refaire après dans les autres. Il y a eu trois balalaïkas dans le temps. Mais ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et tant que j'aurai l'occasion, j'en reparlerai.
Alors parlons des chants que vous exprimez, que vous chantez dans les concerts et autres. Vous avez trois lignées principales, visiblement, qui est le chant russe, le chant tzigane et le chant yiddish. Mm-hmm. Alors pouvez-vous nous dire un petit peu la particularité de ces trois chants, de ces trois types de chants ?
Ils correspondent chacun, en tout cas, à une facette de ce qui m'a fondée musicalement. Bon, la tradition russe, je l'ai eue par ma mère depuis vraiment mon enfance. La tradition yiddish est venue beaucoup plus tard. C'était un petit peu un jardin secret parce que ça correspondait à des choses beaucoup plus... des choses douloureuses, évidemment. Et je n'ai chanté en yiddish qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Et la tradition tzigane, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chanter avec des tziganes, pour ne pas les nommer les tziganes Ivanovitch. Avant Marc Deloutchek, c'est Petro qui m'avait demandé de venir chanter avec lui. Et j'estime que ça a été vraiment pour moi un grand professeur de musique, parce que ça a été la découverte de toute cette spontanéité du chant, de toute cette du don de soi au moment où on chante. Je l'ai reçu plus des tziganes. Et ensuite, bon, quand Marc m'a demandé de venir chanter avec lui, j'étais déjà un petit peu formée par cette école tzigane.
Quand on parle des tziganes ou des Russes dans les cabarets en France, on a toujours l'image des tziganes qui est plus empreinte finalement que l'image de la musique russe. Et on a tendance parfois à les assembler et à ne pas les dissocier. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Parce qu'on parle toujours des tziganes à la place des Russes.
Ça, peut-être Kazansky pourra en parler mieux que je ne saurais le faire.
Déjà, je dirais tzigane et pas tzigane. Parce que c'est TZ, ce qui fait tz. Ou TS, comme il y a la tendance déjà de l'écrire. Toute la différence est là, c'est que tout le monde dit tzigane. C'est tout. Et tant que tout le monde dit tzigane, c'est qu'il est à côté de la plaque.
C'est l'accent français.
Bah oui, mais c'est pas grave, non, je veux dire, c'est au contraire, je veux dire, il y a un côté image d'Épinal,
oui,
qu'il ne faut pas casser non plus, parce que c'est une image d'Épinal qui n'est pas complètement fausse, qui ne correspond pas à une réalité, ni de là-bas. À la limite ici, oui, parce qu'il y a eu un peu des gens qui chantaient l'un et l'autre, et ça se mélangeait. Mais à la limite, à quoi ça sert de mettre les points sur les i? Ça ne changera pas grand-chose. D'une part, pour que ça puisse être réalisé, il faudrait qu'il y ait des personnes qui puissent faire l'un et l'autre. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et d'autre part, même s'il y a des gens comme ça, ils ne pourront pas survivre dans l'époque actuelle. Ceux qui, plus ou moins, arrivent encore à survivre, c'est justement ceux qui s'en sortent en faisant ce que vous voulez. Du tzigane, du slave, du russe, du mélange. Et c'est, je dis encore une fois, c'est pas dramatique. Bon, sauf que c'est une image d'Épinal qui peut pas voler très haut. C'est ça la seule chose. Ou ça peut faire des concerts aussi, hein. Ça peut faire même avoir des noms, ça peut faire même remplir des grandes salles, mais ça ne restera pas dans l'histoire.
Vous savez, il y en a qui font de la chanson manouche et qui sont
à la
mode de Marseille et qui font de l'argent quand même.
Oui, non, mais attention, dire que là c'est très intéressant parce que le manouche n'était pas tellement chanté. Et là, ils commencent à le chanter. Alors c'est les débuts là. Ils ont des balbutiements qui sont intéressants ou pas intéressants. Ça, c'est une question d'évolution. Par contre, là, au contraire, c'est une dégénérescence de quelque chose qui existait et qu'on a simplement on donne l'ersatz, disons, de la chose.
Oui, tout à fait. Oui, parce que quand même, la vraie tradition de chant tzigane, ou plutôt rome, donc pour donner le mot exact, c'est quelque chose de fabuleux. C'est du chant profond, c'est du chant qui est à l'équivalent du chant arabo-andalou,
du
cantejondo, de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ça a été mis tellement à toutes les sauces que voilà, ça a abouti au tzigane.
Quand vous parlez de tzigane, vous parlez des tziganes russes.
Pas seulement, parce que, mais c'est vrai qu'il y a aussi des, enfin, je pense que tous les Roms, qui sont donc un peuple qui s'est installé dans tous les pays d'Europe de l'Est, a pris de chaque tradition du pays où il se trouvait. Donc c'est vrai qu'il y a une différence entre le chant tzigane de Russie et le chant tzigane de Roumanie, des Balkans, enfin tout, voilà. Mais avec des points communs quand même dans les mélismes des voix, dans le côté plus oriental, dans le côté arraché, comme ça. C'est une façon d'interpréter les musiques, d'où qu'elles soient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de frontières, quoi. Il n'y a pas de frontières dans la musique, d'ailleurs.
Quand on vous entend chanter, quand vous chantez des chants russes, vous avez cette voix particulière des chanteuses russes qui est très très haute et avec des aigus excessivement forts. Ah, j'ai une moue de la...
C'est pas fort, c'est joli.
Oui, mais c'est...
Non,
c'est,
ça impressionne.
Ça impressionne,
ça laisse
voilà.
L'impression que c'est très haut, mais ce n'est pas si haut que ça. Et ça laisse peut-être l'impression que c'est fort, mais c'est juste ce qu'il faut.
Alors, tu l'expliques comment? C'est parce qu'on a des oreilles...
Ah non,
des
ça
oreilles.
C'est bien le cas qui va expliquer. Mais ce qui est bien...
C'est parce qu'on a des oreilles différentes.
Ça, c'est un compliment, c'est très bien. C'est-à-dire que ça laisse cette impression-là. Bravo, Bielke.
Merci.
Alors, c'est dû à quoi? Parce qu'on a des oreilles différentes et on est surpris par ces tonalités, ces tessitures de voix.
Oui, c'est-à-dire que les résonateurs ne sont pas les mêmes que dans le chant français ou européen de l'Ouest. Il y a des résonateurs qui sont faits justement par rapport à ces grands espaces par lesquels il fallait vraiment se faire entendre. Les chants de gorge, parce que c'est une voix de gorge, justement, sont faits pour... être entendu très loin. Donc effectivement, il y a des harmoniques. Tout ça est, comment dire, je ne suis pas scientifique du chant, donc je ne peux pas vraiment l'expliquer physiquement, si ce n'est que je pense que c'est dû à la phonétique de la langue, puisque effectivement, quand je chante en français, je n'ai pas la même voix que quand je chante en russe, ni même si je chante un chant rom, c'est pas du tout les mêmes résonances, quoi. C'est vraiment la phonétique de la langue qui aboutit à ça. Puis ensuite, effectivement, il y a une question de dans quoi on a baigné depuis son enfance. Il y a un phénomène d'imitation, forcément. Donc moi, j'ai été nourrie à ces sonorités, et donc je les ai reproduites tout à fait inconsciemment.
Pour ma part, quand j'entends ce type de chanson, je pense également à ces grandes voix de femmes des Balkans. Y aurait-il une ressemblance ? Là, je parle à Constantin.
Bah, c'est-à-dire que de toute façon, ce sont déjà des voix de gorge. C'est-à-dire qu'ils chantent comme... C'est pas comme dans l'opéra où il y a voix de tête et c'est là que ça monte dans les aigus faramineux. Mais ce sont des voix de gorge. Et ce qui est important, c'est, voilà, c'est imitation, je dirais mimétisme.
Oui.
C'est-à-dire qu'on grandit avec cette habitude de mimétisme. Et par conséquent, c'est exactement comme il y a des chanteurs italiens qui sont nés au bord de la mer et qui ont toujours la voix un peu enrouée. On dit que c'est le sel de mer qui est entré là-dedans. Alors plusieurs parmi ces gens-là qui sont n'importe quoi, leur métier, ils ont des voix aiguës et légèrement cassées. Mm-hmm. Et bien la même chose dans la Russie profonde du nord ou du sud, par génération, par les gènes, passent certaines prédispositions pour continuer ce mimétisme-là. La même chose dans les Balkans, d'une autre manière. Mais ça peut se rapprocher, puisque quand on travaille avec des Ukrainiens, par exemple, qui ont aussi leur chant folklorique, on peut imiter les chants bulgares avec des Ukrainiens et vice-versa. On peut faire travailler des chanteuses folkloriques bulgares pour obtenir un effet de chanteuse folklorique russe. Là où c'est un peu plus difficile, c'est au niveau de l'accent. Mais au niveau du son des voix, à la limite, on peut l'obtenir. Mais c'est une question d'affinité. Bielka, elle a choisi un répertoire qui lui plaît, russe, tzigane, yiddish, et elle le chante. Alors, tout ça trouve une logique dans la voix du Bielka, parce que c'est à elle que ça plaît. On ne peut pas le faire d'une manière artificielle, c'est-à-dire on ne peut pas se dire « Tiens, on va faire maintenant de l'ukrainien, on va engager des bulgares. » Parce que peut-être les bulgares, ça ne les amusera pas d'essayer de faire de l'ukrainien, ou peut-être ils vont adorer ça. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très important qui dépasse la prédisposition qu'on a au départ. C'est l'envie de faire autre chose. Et on apporte toujours une couleur supplémentaire dans l'authentique de l'autre. Et ça, c'est très important. Sinon, l'autre, s'il ne reste qu'à son authentique, un jour, il va mourir.
Bien dit.
Est-ce que dans les chants tziganes, on a la même particularité dans la tessiture de voix ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Les chants tziganes sont beaucoup plus rauques, en général. Hein. Les femmes tziganes, d'abord, elles fument. Donc, non, ce n'est pas la même tradition vocale, je dirais, même si les tziganes adorent aussi chanter des chants russes, et puis, ils interprètent justement ces chants à leur façon, et puis les Russes adorent chanter les chants tziganes. Enfin, on a toujours chanté ensemble, justement, dans ce fameux cabaret balalaïka, on était très, très mêlés les uns aux autres, on était très... On adorait chanter les chants roms comme les chants russes, etc. quoi.
Dans ce cas-là, quand vous chantez des chants roms, est-ce que les musiciens changeaient d'instrument ? Ou alors ils utilisaient toujours la balalaïka ?
Les chants roms, c'est plus la guitare pour ce qui est de la Russie. Plus la guitare. Après, bon, dans les autres traditions, il y a tous les instruments, cymbalum, violon, etc. Mais pour ce qui est des chants tziganes de Russie, c'était plutôt accompagné à la guitare.
Vous aviez combien de musiciens avec vous quand vous chantiez
Ça dépendait, 3, 4, parfois 5, ça dépendait. Puis en plus, il y avait les bœufs, il y avait les musiciens qui arrivaient d'un peu partout. Enfin, Constantin qui venait très souvent avec Véronique, d'autres, enfin, Boulou, Elios, tout ce qui arrivait après leur prestation dans d'autres lieux. Et alors là, on se mélangeait bien allègrement, quoi.
Un petit mot, Constantin.
À propos de
justement de ces bœufs que vous aviez réalisés.
Bah, c'est-à-dire que c'est une
des anecdotes à raconter.
Bon, c'est une tradition qui existait dans les années 70, peut-être parce qu'on était jeunes, que c'était de notre âge, et où effectivement, sans avoir les téléphones portables, on se retrouvait, on se cherchait, on savait où on peut trouver les autres, on allait toujours avec les guitares. C'est comme ça qu'on apprenait aussi beaucoup de chansons, c'est comme ça qu'on apprenait des accords. Les échanges étaient très spontanés.
C'était le karaoké de l'époque, presque.
Ben non, parce que le karaoké, il est déjà systématisé, il y a le playback qui est là.
Oui, tout à fait.
Voilà, tandis que là, c'est nous qui faisions chaque fois des playbacks différents. Voilà, des improvisations, des trouvailles, de chanter. Il y avait un plaisir d'échanger des choses. Il n'y avait pas une concurrence, ou disons, s'il y avait une concurrence, il n'y avait pas de rivalité. Et enfin, il y avait quelque chose de très bien dans cette époque-là. Mmh. Ben, ce qui fait que, voilà, si Marc avait ouvert une boîte, on passait pour voir Marc. Après, il y avait quelqu'un d'autre qui se produisait quelque part ailleurs, on allait le voir. Et tout ça, c'est merveilleux, ça existait dans les années 70, bon. Après, peut-être, on n'avait plus l'âge. Moi, personnellement, ça ne me disait plus rien d'aller toujours avec une guitare pour jouer quelque part. Je ne sais pas s'il y a eu l'autre génération qui l'a continué. Mais enfin, moi, j'ai gardé des très bons souvenirs de cette période-là.
Cette période se termine à quelle époque pour vous ?
Ça s'est terminé dans les années 90, par là, 90... Oui, ensuite, j'ai effectivement, j'ai pas, par exemple, je n'ai pas participé à la troisième balalaïka. Bon, ça ne dit rien aux auditeurs, mais il y a donc eu trois balalaïkas successives. Et puis, je suis partie en tournée avec les Jeunesses musicales de France. Donc, j'étais beaucoup moins sur Paris. J'ai fait du spectacle musical pour enfants, etc. Puis de la scène, des festivals. Enfin, voilà. La vie de cabaret, en plus, ne me convenait plus. Parce que c'était fini, quoi. Je n'étais plus la même. Voilà, j'avais plus non plus l'envie de rester de 8h du soir à 5h du matin dans un endroit bien souvent fumé, etc. Et puis j'avais besoin de m'exprimer d'une autre façon, de monter mes propres spectacles. Mais enfin, je veux dire, le cabaret pour moi était une école et vraiment quelque chose qui m'a apporté énormément. Énormément.
Bien, nous allons nous arrêter 5 petites minutes et nous allons repartir dans une deuxième partie avec le chant yiddish, l'analyse un petit peu de ce chant yiddish et puis, moi, quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est le travail que vous avez fait sur les chants de marins. Voilà, et j'aimerais qu'on en parle aussi. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Autre radio, autre culture. Au revoir.
Белоснежная вишня из-за тучи далекой показалась луна. Все подружки по парам в тишине разбрелись, только я в этот вечер засиделась одна.
Autre radio, autre culture.